Sixième partie, chapitre 22. La situation de Raskolnikov était étrange. On eût dit qu'une sorte de brouillard l'enveloppait et l'isolait du reste des hommes. Quand, dans la suite, il se rappelait cette époque de sa vie, il devinait qu'il avait dû perdre parfois la conscience de lui-même et que cet état avait duré, avec certains intervalles lucides, jusqu'à la catastrophe définitive. Il était positivement convaincu qu'il avait commis alors beaucoup d'erreurs. Par exemple, que la succession chronologique des événements lui avait souvent échappé. Du moins, lorsque plus tard il voulut rassembler et mettre en ordre ses souvenirs, force lui fut de recourir à des témoignages étrangers pour apprendre nombre de particularités sur lui-même. Il confondait notamment un fait avec un autre, ou bien il considérait tel incident comme la conséquence d'un autre qui n'existait que dans son imagination. Quelquefois, il était dominé par une crainte maladive qui dégénérait même en terreur panique. Mais il se souvint aussi qu'il y avait eu des moments, des heures et peut-être même des jours où, par contre, il était plongé dans une apathie morne, comparable seulement à l'indifférence de certains moribonds. En général, dans ces derniers temps, loin de chercher à se rendre un compte exact de sa situation, il s'efforçait de n'y point songer. Certains faits de la vie courante, qui ne souffraient pas d'ajournement, s'imposaient malgré lui à son attention. En revanche, il négligeait à plaisir les questions dont l'oubli, dans une position comme la sienne, ne pouvait que lui être fatal. Il avait surtout peur de Svidrigaïlov. Depuis que ce dernier lui avait répété les paroles prononcées par lui dans la chambre de Sonia, les pensées de Raskolnikov avaient pris comme une direction nouvelle. Mais bien que cette complication imprévue l'inquiétât extrêmement, le jeune homme ne se pressait pas de tirer la chose au clair. Parfois, quand il avait égaré ses pas dans quelques quartiers lointains et solitaires de la ville, quand il se voyait attablé seul dans un méchant tractir, sans se rappeler par quel hasard il était entré là, il songeait tout à coup à Svidrigaïlov. Il se promettait d'avoir le plus tôt possible une explication décisive avec cet homme dont la pensée l'obsédait. Un jour qu'il était allé se promener quelque part au-delà de la barrière, il se figura même qu'il avait donné rendez-vous à Svidrigaïlov en cet endroit. Une autre fois, en s'éveillant avant l'aurore, il fut fort étonné de se trouver couché par terre au milieu d'un taillis. Du reste, pendant les 2 ou 3 jours qui suivirent la mort de Catherine Ivanovna, Raskolnikov eut 2 fois l'occasion de rencontrer Svidrigaïlov, d'abord dans la chambre de Sonia, ensuite dans le vestibule, près de l'escalier conduisant chez la jeune fille. Dans ces 2 circonstances, ils se bornèrent à échanger quelques mots très brefs, et s'abstinrent d'aborder le point capital, comme si, par un accord tacite, ils se fussent entendus pour écarter momentanément cette question. Le cadavre de Catherine Ivanovna était encore sur la table. Svidrigaïlov prenait les dispositions relatives aux funérailles. Sonia était aussi fort occupée. Dans la dernière rencontre, Svidrigaïlov apprit à Raskolnikov que ses démarches en faveur des enfants de Catherine Ivanovna avaient été couronnées de succès. Grâce à certains personnages de sa connaissance, il avait pu, dit-il, obtenir l'admission des 3 enfants dans des asiles très bien tenus. Les 1 500 roubles placés sur la tête de chacun d'eux n'avaient pas nui à ce résultat, car on recevait beaucoup plus volontiers les orphelins possédant un petit capital que ceux qui étaient tout à fait sans ressources. Il ajouta même quelques mots au sujet de Sonia, promit de passer lui-même un de ses jours chez Raskolnikov et laissa entendre qu'il y avait certaines affaires dont il désirait vivement s'entretenir avec lui. Pendant qu'il parlait, Svidrigaïlov ne cessait d'observer son interlocuteur. Tout à coup, il se tut, puis il demanda en baissant la voix « Mais qu'avez-vous donc, Rodion Romanovitch? On dirait que vous n'êtes pas dans votre assiette. Vous écoutez, vous regardez, vous n'avez pas l'air de comprendre. Reprenez vos esprits. Voilà, il faudra que nous causions un peu ensemble. Malheureusement, je suis fort occupé tant par mes propres affaires que par celles des autres. Hé, Rodion Romanovitch, ajouta-t-il brusquement, à tous les hommes, il faut de l'air, de l'air, de l'air avant tout. Il se rangea vivement pour laisser passer un prêtre et un sacristain qui s'apprêtait à monter l'escalier. Il venait célébrer l'office des morts. Svidrigaïlov avait tenu à ce que cette cérémonie eût lieu régulièrement deux fois par jour. Il s'éloigna et Raskolnikov, après un moment de réflexion, suivit le pope chez Sonia. Il resta sur le seuil. Le service commença avec la tranquille et triste solennité d'usage. Depuis son enfance, Raskolnikov éprouvait une sorte de terreur mystique devant l'appareil de la mort. Aussi évitait-il le plus souvent d'assister au panichidas. D'ailleurs, celle-ci avait pour lui un caractère particulièrement émouvant. Il regarda les enfants. Tous trois étaient agenouillés près du cercueil. Poletchka pleurait. Derrière eux, Sonia priait en cherchant à cacher ses larmes. Tous ces jours-ci, elle n'a pas levé une seule fois les yeux sur moi et ne m'a pas dit un seul mot, pensa-t-il tout à coup. Le soleil jetait une vive lumière dans la chambre où la fumée de l'encens montait en tourbillons épais. Le prêtre lut la prière accoutumée. « Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. » Raskolnikov resta jusqu'à la fin. En donnant la bénédiction et en prenant congé, l'ecclésiastique regarda autour de lui d'un air étrange. Après l'office, Raskolnikov s'approcha de Sonia. Elle lui prit aussitôt les deux mains et inclina sa tête sur l'épaule du jeune homme. Cette démonstration d'amitié causa un profond étonnement à celui qui en était l'objet. Quoi ? Sonia ne manifestait pas la moindre aversion, pas la moindre horreur pour lui. Sa main ne tremblait pas le moins du monde. C'était le comble de l'abnégation personnelle. Enfin, du moins, ce fut ainsi qu'il en jugea. La jeune fille ne dit pas un mot. Raskolnikov lui serra la main et sortit. Il éprouvait un insupportable malaise. S'il lui avait été possible, en ce moment, de trouver quelque part la solitude, cette solitude eût-elle duré toute sa vie, il se serait estimé heureux. Hélas, depuis quelque temps, quoiqu'il fût presque toujours seul, il ne pouvait pas se dire qu'il l'était. Il lui arrivait de se promener hors la ville, de s'en aller sur un grand chemin. Une fois même, il s'enfonça dans un bois. Mais plus le lieu était solitaire, plus Raskolnikov sentait près de lui un être invisible, dont la présence l'effrayait moins encore qu'elle ne l'irritait. Aussi se hâtait-il de regagner la ville. Il se mêlait à la foule, entrait dans les traktirs et dans les cabarets, allait au Tolkutchil ou à la Siennaïa. Là, il se trouvait plus à l'aise et même plus seul. À la tombée de la nuit, on chantait des chansons dans une gargote. Il passa une heure entière à les écouter et y prit même un grand plaisir. Mais à la fin, l'inquiétude le ressaisit de nouveau. Une pensée poignante, comme un remords, se mit à le torturer. « Je suis là à écouter les chansons. Est-ce pourtant ce que je dois faire ?» se dit-il. Du reste, il devinait que ce n'était pas là son unique souci. Une autre question devait être tranchée sans retard, mais elle avait beau s'imposer à son attention, il ne pouvait se résoudre à lui donner une forme précise. « Non, mieux vaudrait la lutte, mieux vaudrait me retrouver encore en face de Porphyre ou de Svidrigaïlov. Oh oui, plutôt un adversaire quelconque, une attaque à repousser. » Et sur cette réflexion, il quitta précipitamment la gargote. Soudain, la pensée de sa mère et de sa sœur le jeta dans une sorte de terreur panique. Il passa chez lui là, couché dans les taillis de Krestovski Ostrov. Avant l'aurore, il se réveilla, tremblant, l'un de fièvre, et prit le chemin de sa demeure, où il arriva de grand matin. Après quelques heures de sommeil, la fièvre disparut, mais il s'éveilla tard, à 2 heures de l'après-midi. Raskolnikov se rappela que c'était le jour fixé pour les obsèques de Catherine Ivanovna, et il se félicita de n'y avoir pas assisté. Nastasia lui apporta son repas. Il mangea et but de fort bon appétit, presque avec avidité. Sa tête était plus fraîche, il goûtait un calme qui lui était inconnu depuis 3 jours. Un instant même, il s'étonna des accès de terreur panique auxquels il avait été en proie. La porte s'ouvrit, entra Rasumikhin. « Oh, il mange, par conséquent, il n'est pas malade !» dit le visiteur, qui prit une chaise et s'assit près de la table, en face de Raskolnikov. Il était fort agité et ne cherchait pas à le cacher. Il parlait avec une colère visible, mais sans se presser et sans élever extrêmement la voix. On pouvait supposer que quelque motif sérieux l'avait amené. « Écoute, commença-t-il d'un ton décidé, je vous lâche tous parce que je vois maintenant, je vois de la façon la plus claire que votre jeu est indéchiffrable pour moi. Oh, ne crois pas, je te prie que je sois venu t'interroger, je m'en moque. Je ne me soucie pas de te tirer les vers du nez. Maintenant, tu me dirais toi-même tout, tous vos secrets. » Il est bien probable que je ne voudrais pas les entendre. Je cracherai et je m'en irai. Je suis venu à seule fin de m'édifier. D'abord, personnellement, sur ton état mental. Vois-tu, il y a des gens qui te croient fou à la veille de l'être. Je t'avoue que j'étais moi-même très disposé à partager cette opinion, vu que ta manière d'agir est stupide, assez vilaine et parfaitement inexplicable. D'autre part, que penser de ta récente conduite à l'égard de ta mère et de ta sœur? Quel homme, à moins d'être une canaille ou un fou, se serait comporté avec elle comme tu l'as fait, donc tu es fou. Quand les as-tu vus? Pas tout à l'heure. Et toi, tu ne les vois plus. Dis-moi, je te prie, où tu roules ainsi toute la journée? J'ai déjà passé 3 fois chez toi. Depuis hier, ta mère est sérieusement malade. Elle a voulu venir te voir. Avdotia Romanovna s'est efforcée de l'en détourner. Mais Pulcheria Alexandrovna n'a rien voulu entendre. Mais s'il est malade, s'il a l'esprit dérangé, a-t-elle dit, mais qui lui donnera des soins sinon sa mère? Pour ne pas la laisser aller seule, nous nous sommes tous rendus ici et durant la route, nous la supplions sans cesse de se calmer. Et quand nous sommes arrivés, tu étais absent. Tiens, voilà la place où elle s'est assise. Elle est restée là 10 minutes. Et debout à côté d'elle, nous nous taisions. S'il sort, a-t-elle dit en se levant, c'est qu'il n'est pas malade et qu'il oublie sa mère. Il est donc inconvenant à moi d'aller mendier les caresses de mon fils. Elle est retournée chez elle et s'est mise au lit. À présent, elle a la fièvre. Je le vois bien, dit-elle, c'est à elle qu'il donne tout son temps. Elle suppose que Sophie Siemenovna est ta fiancée ou ta maîtresse. Je suis allé aussitôt chez cette jeune fille, parce que, mon ami, il me tardait d'être fixé là-dessus. J'entre et que vois-je? Un cercueil, des enfants qui pleurent, et Sophie Siemenovna qui leur essaie des vêtements de deuil. Tu n'étais pas là. Après avoir cherché les yeux, j'ai fait mes excuses, je suis sorti et j'ai été raconter à Avdotia Romanovna le résultat de ma démarche. Décidément, tout cela ne signifie rien. Il ne s'agit pas ici d'amourette. Reste donc, comme la plus probable, l'hypothèse de la folie. Or voici que je te trouve en train de dévorer du bœuf bouilli comme si tu n'avais rien pris depuis 48 heures. Sans doute être fou n'empêche pas de manger, mais quoique tu ne m'aies pas encore dit un mot, non, tu n'es pas fou. J'en mettrai ma main au feu. C'est pour moi un point hors de discussion. Aussi, je vous envoie tous au diable, attendu qu'il y a là un mystère et que je n'ai pas l'intention de me casser la tête sur vos secrets. J'étais venu seulement pour te faire une scène et me soulager le cœur. Quant au reste, je sais maintenant ce que j'ai à faire. Que vas-tu faire? Oh, que t'importe! Tu vas te mettre à boire? Ah, comment as-tu deviné cela? Exact, que c'était difficile à deviner. Razumihin resta un moment silencieux. Tu as toujours été fort intelligent, et jamais, jamais tu n'as été fou, observa-t-il tout à coup avec vivacité. Tu as dit vrai, je vais me mettre à boire. Allez, adieu. Et il fit un pas vers la porte. Avant-hier, si je me rappelle bien, j'ai parlé de toi à ma sœur, dit Raskolnikov. Razumihin s'arrêta soudain. De moi? Mais où donc as-tu pu la voir avant-hier? Demanda-t-il en pâlissant un peu. Le trouble qui l'agitait ne pouvait faire l'objet d'un doute. Elle est venue ici, seule, s'est assise à cette place et a causé avec moi. Elle? Oui, elle. Mais que lui as-tu donc dit? De moi, bien entendu. Je lui ai dit que tu es un excellent homme, honnête et laborieux. Oh, je ne lui ai pas dit que tu l'aimais, parce qu'elle le sait. Elle le sait? Tu as parbleu. Où que j'aille, quoi qu'il arrive de moi, tu devrais rester leur providence. Je les remets, pour ainsi dire, entre tes mains, Razumihin. Je te dis cela parce que je sais très bien que tu l'aimes et je suis convaincu de la pureté de tes sentiments. Je sais aussi qu'elle peut t'aimer, si même elle ne t'aime déjà. Maintenant, décide si tu dois ou non te mettre à boire. Rotka, oh, tu vois, eh bien, ah diable, mais toi, où veux-tu aller? Vois-tu? Du moment où tout cela est un secret, eh bien, n'en parlons plus. Mais je saurai ce qui en est. Et je suis convaincu qu'il n'y a là rien de sérieux, que ce sont des niaiseries dont ton imagination se fait des monstres. Du reste, tu es un excellent homme, un excellent homme. Je voulais ajouter, mais tu m'as interrompu, que tu avais parfaitement raison tout à l'heure, quand tu déclarais renoncer à connaître ses secrets. Ne t'en inquiète pas. Les choses se découvriront en leur temps, et tu sauras tout quand le moment sera venu. Hier, quelqu'un m'a dit qu'il fallait à l'homme De l'air, de l'air, de l'air. Je vais aller tout de suite lui demander ce qu'il entend par là. Prazotpirin réfléchissait. Une idée lui vint. Oh, c'est un conspirateur politique à coup sûr. Il est à la veille de quelques tentatives audacieuses, cela est certain. Il ne peut pas en être autrement et Dounia le sait, se dit-il soudain. Ainsi Avdotya Romanovna vient chez toi, reprit-il en scandant chaque mot, et toi-même, tu veux voir quelqu'un qui dit qu'il faut plus d'air. Ben, il est probable que la lettre a aussi été envoyée par cet homme-là, acheva-t-il comme en aparté. Quelle lettre? Elle a reçu aujourd'hui une lettre qui l'a beaucoup inquiétée. J'ai voulu lui parler de toi, elle m'a prié de me taire. Ensuite, elle m'a dit que nous nous séparerions peut-être dans un très bref délai et m'a adressé de chaleureux remerciements. Après quoi, elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Elle a reçu une lettre ? Demanda de nouveau Raskolnikov, devenu soucieux. Oui, oh, est-ce que tu ne le savais pas ? Tous deux se turent pendant une minute. « Bon, adieu, Rodion. Moi, mon ami, il y a eu un temps. Bon. Alors, adieu. Je dois aussi m'en aller. Pour ce qui m'a donné à la boisson, oh non, allez, je n'en ferai rien. C'est inutile. » Il sortit vivement, mais il venait à peine de refermer la porte sur lui, qu'il la rouvrit tout à coup, et dit en regardant de côté. À propos, tu te rappelles ce meurtre, l'assassinat de cette vieille femme? Eh bien, sache qu'on a découvert le meurtrier, il s'est reconnu coupable et a fourni toutes les preuves à l'appui de ses dires. C'est, figure-toi, un de ces peintres dont j'avais pris si chaudement la défense. Le crois-tu? La poursuite des deux ouvriers courant l'un après l'autre dans l'escalier, pendant que montaient le Dvornik et les deux témoins, les gourmades qu'ils s'administraient en riant. Eh bien, tout cela n'était qu'un truc imaginé par l'assassin pour détourner les soupçons. Quelle astuce! Quelle présence d'esprit chez ce drôle! On a peine à y croire. Mais il a lui-même tout expliqué. Il a fait les aveux les plus complets. Et comme je m'étais fourvoyé. Eh bien, à mon avis, cet homme est le génie de la dissimulation et de la ruse. Après cela, il ne faut s'étonner de rien. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de pareils gens? S'il n'a pas soutenu son rôle jusqu'au bout, s'il est entré dans la voie des aveux, je n'en suis que plus porté à admettre la vérité de ce qu'il dit. Cela rend la chose plus vraisemblable. Mais m'étais-je assez mis le doigt dans l'œil? En ai-je rompu les lances en faveur de ces deux hommes-là? Dis-moi, je te prie, comment as-tu appris cela et pourquoi cette affaire t'intéresse-t-elle tant? Demanda Raskolnikov, visiblement agité. Pourquoi elle m'intéresse? Oh, voilà une question! Quant au fait, je les tiens de plusieurs personnes, notamment de Porphyre. C'est lui qui m'a presque tout appris. Porphyre? Oui? Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Demanda Raskolnikov inquiet. Il m'a expliqué cela à merveille en procédant par la méthode psychologique, selon son habitude. Il t'a expliqué cela lui-même? Oui, lui-même. Allez, adieu. Plus tard, je te dirai encore quelque chose, mais maintenant, je suis forcé de te quitter. Il y a eu un temps où j'ai pensé... Oh, bon, alors, je te raconterai cela un autre jour. Qu'ai-je besoin de boire à présent? Tes paroles ont suffi pour m'enivrer. En ce moment, Rodka, je suis ivre, ivre, sans avoir bu une goutte de vin. Allez, adieu. À bientôt. Il sortit. C'est un conspirateur politique, cela est positif, positif, conclut définitivement la Smirine, tandis qu'il descendait l'escalier. Et il a entraîné sa sœur dans son entreprise. Cette conjecture est très probable, étant donné le caractère d'Avdotia Romanovna. Ils ont eu des entretiens. Elle m'avait déjà laissé supposer, d'après certaines paroles. Maintenant, je comprends à quoi se rapportaient ces petits mots, ces allusions. Oui, c'est bien cela. D'ailleurs, vous trouvez une autre explication de ce mystère? Il m'était venu à l'esprit. Oh, Seigneur, comme étais-je imaginé? Oui, j'ai eu une défaillance de jugement. Et je me suis rendu coupable envers lui. L'autre soir, dans le corridor, en considérant son visage éclairé par la lumière de la lampe, j'ai eu une minute d'égarement. Pouah ! Oh, quelle horrible idée j'ai eu dû concevoir. Mikolka a joliment bien fait d'avouer. Oui, à présent, tout le passé s'explique. La maladie de Rodion, l'étrangeté de sa conduite, cette humeur sombre et farouche qu'il manifestait déjà au temps où il était étudiant. Mais que signifie cette lettre? D'où vient-elle? Il y a encore là quelque chose, je soupçonne. Bon, j'aurai le fin mot de tout cela. À la pensée de Dounetchka, il sentait son cœur se glacer et rester comme cloué à sa place. Il dut faire un violent effort sur lui-même pour continuer sa marche. Aussitôt après le départ de Razoubikhine, Raskolnikov se leva. Il s'approcha de la fenêtre, puis se promena d'un coin à l'autre, paraissant avoir oublié les dimensions exiguës de sa chambrette. À la fin, il se rassit sur le divan. Une rénovation complète semblait être opérée en lui. Il allait avoir encore à lutter. C'était une issue. Oui, une issue, un moyen d'échapper à la situation pénible, aux conditions d'étouffement dans lesquelles il vivait depuis l'apparition de Nikolka chez Porfir. Après ce dramatique incident, le même jour avait eu lieu la scène chez Sonia, scène dont les péripéties et le dénouement avaient tout à fait trompé les prévisions de Raskolnikov. Il s'était montré faible. Il avait reconnu, d'accord avec la jeune fille, et reconnu sincèrement, qu'il ne pouvait plus porter seul un pareil fardeau. Et Svidrigailov? Svidrigailov était une énigme qui l'inquiétait, mais pas de la même façon. Il y avait peut-être moyen de se débarrasser de Svidrigailov, tandis que Porfir, c'était une autre affaire. Ainsi, c'est Porfir lui-même qui a expliqué à Rumirin la culpabilité de Mikolka en procédant par la méthode psychologique, continuait à se dire Raskolnikov. Ah, oh, il a encore fourré là sa maudite psychologie, Porfir. Mais comment Porfir a-t-il pu croire un seul instant Mikolka coupable, après la scène qui venait de se passer entre nous, et qui n'admet qu'une explication? Durant ce tête-à-tête, ses paroles, ses gestes, ses regards, le son de sa voix, tout chez lui attestait une conviction si invincible qu'aucun des prétendus aveux de Mikolka n'a dû l'ébranler. Mais quoi? Razoubikhine lui-même commençait à se douter de quelque chose. L'incident du corridor lui a sans doute fait faire des réflexions. Il a couru chez Porfir. Mais pourquoi ce dernier l'a-t-il ainsi mystifié? Quel but poursuit-il en abusant Razoubikhine sur le corps de Mikolka? Évidemment, il n'a pas fait cela sans motif, il doit avoir ses intentions. Mais quelles sont-elles? À la vérité, il s'est déjà écoulé bien du temps depuis ce matin, et je n'ai encore ni vent ni nouvelles de Porphyre. Qui sait pourtant si ce n'est pas plutôt mauvais signe. Raskolnikov prit sa casquette et, après avoir tenu conseil avec lui-même, se décida à sortir. Ce jour-là, pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentait en pleine possession de ses facultés intellectuelles. « Oh, il faut en finir avec Svidrigaïlov, » pensait-il, et coûte que coûte, expédier cette affaire le plus tôt possible. D'ailleurs, il paraît attendre ma visite. En cet instant, une telle haine déborda tout à coup de son cœur que s'il avait pu tuer l'un ou l'autre de ces deux êtres détestés, Svidrigaïlov ou Porphyre, il n'aurait sans doute pas hésité à le faire. Mais à peine venait-il d'ouvrir la porte qu'il se rencontra nez à nez dans le vestibule avec Porphyre lui-même. Le juge d'instruction venait chez lui. Tout d'abord, Raskolnikov resta stupéfait, mais il se remit presque aussitôt. Chose étrange, cette visite ne l'étonna pas trop et ne lui causa presque aucune frayeur. Bon, c'est peut-être le dénouement. Mais pourquoi a-t-il amorti le bruit de ses pas? Je n'ai rien entendu. Oh, peut-être écoutait-il derrière la porte. Ah, oh, vous n'attendiez pas ma visite, Rodion Romanovitch, fit gaiement Porphyre Pietrovitch. Oh, je me proposais depuis longtemps d'aller vous voir et en passant devant votre maison, j'ai pensé à vous dire un petit bonjour. Ah, oh, vous étiez sur le point de sortir. Je ne vous retiendrai pas. 5 minutes seulement, le temps de fumer une petite cigarette, si vous permettez. Mais asseyez-vous, Porphyre Pietrovitch, asseyez-vous, dit Raskolnikov en offrant un siège au visiteur, d'un air si affable et si satisfait que lui-même en aurait été surpris s'il avait pu se voir. Toute trace de ses impressions précédentes avait disparu. Ainsi parfois l'homme qui, aux prises avec un brigand, a passé durant une demi-heure par des angoisses mortelles, n'éprouve plus aucune crainte quand il sent le poignard sur sa gorge. Le jeune homme s'assit en face de Porphyre et fixa sur lui un regard assuré. Le juge d'instruction cligna les yeux et commença par allumer une cigarette. « Eh bien, parle donc !» lui criait mentalement Raskolnikov. « Oh, ces cigarettes !» commença enfin Porphyre Petrovitch. « C'est ma mort, je ne puis y renoncer. Je tousse, j'ai un commencement d'irritation dans le gosier et je suis asthmatique. J'ai été consulté dernièrement, Botkin. Il examine chaque malade une demi-heure. » Au minimum. Après m'avoir longuement ausculté, percuté, etc., il m'a dit, entre autres choses, « Oh, le tabac ne vous vaut rien, vous avez les poumons dilatés. » Oui, mais comment abandonner le tabac? Par quoi le remplacer? Oh, je vois pas, voilà le malheur. Tout est relatif, Rodion Romanovitch. » Voilà encore un préambule qui sent sa rouerie juridique. Maugréait à part soi Raskolnikov. Son entretien récent avec le juge d'instruction lui revint brusquement à l'esprit, et à ce souvenir, la colère se réveilla dans son cœur. Oh, j'ai déjà passé chez vous avant-hier soir, vous ne saviez pas ? Continua Porphyre Petrovitch en promenant ses regards autour de lui. Oh, je suis entré dans cette même chambre. Je me trouvais par hasard dans votre rue comme aujourd'hui et l'idée m'est venue de vous faire une petite visite. Votre porte était ouverte, je suis entré, je vous ai attendu un moment. Et puis je suis parti, sans laisser mon nom à votre servante. Vous ne fermez jamais ? La physionomie de Raskolnikov s'assombrissait de plus en plus. Porphyre Petrovitch devina sans doute à quoi il pensait. Ben, « Je suis venu m'expliquer, cher Rodion Romanovitch. Je vous dois une explication, poursuivit-il avec un sourire et en frappant légèrement sur le genou du jeune homme. Mais, presque au même instant, son visage prit une expression sérieuse, triste même au grand étonnement de Raskolnikov, à qui le juge d'instruction se montrait ainsi sous un jour fort inattendu. La dernière fois que nous nous sommes vus, il s'est passé une scène étrange entre nous, Rodion Romanovitch. J'ai eu peut-être de grands torts envers vous, je le sens. Vous vous rappelez comme nous nous sommes quittés, nous avions les nerfs très excités, vous et moi. Nous avons manqué aux convenances les plus élémentaires, et pourtant nous sommes des gentlemen. Mais où veut-il en venir? Se demandait Raskolnikov, qui ne cessait de considérer Porphyre avec une curiosité inquiète. J'ai pensé que nous ferions mieux désormais d'agir avec sincérité, reprit le juge d'instruction, en détournant un peu la tête et en baissant les yeux, comme s'il eût craint cette fois de troubler par ses regards son ancienne victime. Il ne faut pas que de pareilles scènes se renouvellent. L'autre jour, sans l'arrivée de Mikolka, je ne sais pas jusqu'où les choses seraient allées. Vous êtes naturellement très irascible, Rodion Romanovitch. C'est là-dessus que j'avais tablé, car poussé à bout, un homme laisse parfois échapper ses secrets. Si je pouvais, me disais-je, lui arracher une preuve quelconque, fût-elle la plus mince, mais une preuve réelle, tangible, palpable, autre chose enfin que toutes ces inductions psychologiques. Voilà, voilà oui, le calcul que j'avais fait. Réussi quelquefois à l'aide de ce procédé. Seulement, cela n'arrive pas toujours, comme j'ai eu alors l'occasion de m'en convaincre. J'avais trop présumé de votre caractère. Mais pourquoi maintenant me dites-vous tout cela? Balbutia Raskolnikov, sans trop se rendre compte de la question qu'il posait. Est-ce que par hasard il me croirait innocent? Se demandait-il. Ah, pourquoi je vous dis cela? Mais je considère comme un devoir sacré de vous expliquer ma conduite. Parce que je vous ai soumis, je le reconnais, à une cruelle torture. Je ne veux pas, Rodion Romanovitch, que vous me preniez pour un monstre. Je vais donc, pour ma justification, vous exposer les antécédents de cette affaire. Au début, ont circulé des bruits sur la nature et l'origine desquels, je crois superflu de m'étendre, inutile aussi de vous dire à quelle occasion, votre personnalité y a été mêlée. Quant à moi, ce qui m'a donné l'éveil, c'est une circonstance d'ailleurs purement fortuite, dont je n'ai pas non plus à parler. De ces bruits et de ces circonstances accidentelles, s'est dégagée pour moi la même conclusion. Je l'avoue franchement, car, à dire vrai, c'est moi qui, le premier, vous ai mis en cause. Je laisse de côté les annotations jointes aux objets qu'on a trouvés chez la vieille. Cet indice et bien d'autres du même genre ne signifient rien. Sur ces entrefaites, j'ai eu l'occasion de connaître l'incident survenu au commissariat de police. Cette scène m'a été racontée dans le plus grand détail par quelqu'un qui y avait joué le principal rôle et qui, à son insu, l'avait menée supérieurement. Eh bien, dans ces conditions, comment ne pas se tourner d'un certain côté ? Sans lapin ne font pas un cheval, sans présomption ne font pas une preuve, dit le proverbe anglais. C'est la raison qui parle ainsi, mais essayez donc de lutter contre les passions. Or, le juge d'instruction est homme et, par conséquent, passionné. Je me suis alors rappelé aussi le travail que vous avez publié dans une revue. J'avais beaucoup goûté, en amateur, s'entend, ce premier essai de votre jeune plume. On y reconnaissait une conviction sincère, un enthousiasme ardent. Cet article a dû être écrit d'une main fiévreuse, pendant une nuit sans sommeil. Bon, l'auteur ne s'en tiendra pas là, avais-je pensé en le lisant. Comment, je vous le demande, ne pas rapprocher cela de ce qui a suivi? La pente était irrésistible. Ah, Seigneur, est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que j'affirme à présent quoi que ce soit? Non. Oh non, je me borne à vous signaler une réflexion qui m'est venue alors. Qu'est-ce que je pense maintenant? Oh, rien, je te dirai à peu près rien. Pour le moment, j'ai entre les mains Mikolka. Il y a des faits et qui l'accusent. On aura beau dire, il y a des faits. Si je vous découvre à présent tout cela, c'est, je le répète, pour que, jugeant dans votre âme et conscience, vous ne m'imputiez pas un crime ma conduite de l'autre jour. Pourquoi, me demanderez-vous, n'êtes-vous pas venu alors faire une perquisition chez moi? Ben, j'y suis allé. J'y suis allé quand vous étiez ici malade, dans votre lit. Pas comme magistrat, mais avec un caractère officiel, mais je suis venu. Votre logement, dès les premiers soupçons, a été fouillé de fond en comble. Mais, umsonst, je me dis maintenant, cet homme va venir chez moi, il viendra lui-même me trouver, et d'ici à très peu de temps. S'il est coupable, il ne peut manquer de venir. Un autre ne viendrait pas, mais celui-ci viendra. Et vous rappelez-vous les bavardages de M. Razoumikhine? Nous lui avions exprès fait part de nos conjectures, dans l'espoir qu'il vous mettrait la puce à l'oreille, car nous savions que M. Razoumikhine ne pourrait contenir son indignation. M. Zamietov avait été surtout frappé de votre audace, et certes, il en fallait pour oser dire ainsi tout à coup en plein tractir « J'ai tué !» Oh, c'était vraiment trop risqué. Je vous attends avec une impatience confiante, et voilà que Dieu vous envoie. Ce que mon cœur a battu quand je vous ai vu paraître. Voyons, quel besoin aviez-vous de venir alors? Si vous vous en souvenez, vous êtes entré en riant aux éclats. Votre rire m'a donné grandement à penser, mais si je n'avais pas eu l'esprit prévenu en ce moment, je n'y aurais pas fait attention. Et M. Razoumikhine alors? Oh, la pierre! La pierre, la pierre, vous vous rappelez la pierre sous laquelle les objets sont cachés? Oh, il me semble l'avoir d'ici. Elle est quelque part dans un jardin potager. C'est bien un jardin potager que vous avez parlé à Zamietov. Bon, ensuite, lorsque la conversation s'est engagée sur votre article, derrière chacune de vos paroles, nous croyions saisir un sous-entendu. Voilà comment Rodion Romanovitch, ma conviction s'est formée peu à peu. Sans doute tout cela peut s'expliquer d'une autre manière, me disais-je. Cependant, et ce sera même plus naturel, j'en conviens. Mieux vaudrait une petite preuve. Mais en apprenant l'histoire du cordon de sonnette, je n'ai plus eu de doute. Je croyais tenir la petite preuve si désirée, et je n'ai pas voulu réfléchir à rien. En ce moment-là, j'aurais volontiers donné 1000 roubles de ma poche pour vous voir de mes yeux, faisant 100 pas côte à côte avec un bourgeois qui vous avait traité d'assassin sans que vous eussiez osé lui répondre. Certes, il n'y a pas lieu d'attacher grande importance aux faits et gestes d'un malade qui agit sous l'influence d'une sorte de délire. Néanmoins, comment vous étonner après cela, Rodion Romanovitch, de la façon dont j'en ai usé envers vous? Et pourquoi, juste en ce moment, êtes-vous venu chez moi? Quelque diable, assurément, vous y a poussé. Et en vérité, si Mikolka ne nous avait séparés, Vous vous rappelez l'arrivée de Mikolka? Ça a été comme un coup de foudre. Mais quel accueil lui ai-je fait? Je n'ai pas ajouté la moindre fois à ses dires, vous l'avez vu. Après votre départ, je l'ai continué à l'interroger. Il m'a répondu sur certains points d'une façon si topique que j'en ai été moi-même étonné. Malgré cela, ses déclarations m'ont laissé totalement incrédule. Je suis resté aussi inébranlable qu'un roc. Razumihin m'a dit tout à l'heure qu'à présent, vous étiez convaincu de la culpabilité de Mikolka. Vous-même lui auriez assuré que... Il ne put achever, le souffle lui manqua. « Ah, monsieur Razumihin !» s'écria Porfir Petrovitch, qui semblait bien aise d'avoir entendu enfin une observation sortir de la bouche de Raskolnikov. « Mais oh, il s'agissait pour moi de me débarrasser de monsieur Razumihin, qui venait chez moi avec des airs éplorés et qui n'a rien à voir dans cette affaire. Laissons-le de côté, si vous le voulez bien. Quant à Mikolka, vous plaît-il de savoir ce qu'il est, ou du moins, quelle idée je me fais de lui? Avant tout, c'est comme un enfant. Il n'a pas atteint sa majorité. Sans être précisément une nature poltronne, il est impressionnable comme un artiste. Ne riez pas, si je le caractérise de la sorte. Il est naïf, sensible, fantasque. Dans son village, il chante, il danse, et il narre des contes que viennent entendre les paysans des campagnes voisines. Il lui arrive de boire jusqu'à perdre la raison, non qu'il soit à proprement parler un ivrogne, mais parce qu'il ne sait pas résister à l'entraînement de l'exemple quand il se trouve avec des camarades. Il ne comprend pas qu'il a commis un vol en s'appropriant les crins ramassés par lui. Puisque je l'ai trouvé par terre, dit-il, j'avais bien le droit de le prendre. Au dire des gens de Saraïsk, ses compatriotes, il avait une dévotion exaltée, passait les nuits à prier Dieu et lisait sans cesse les livres saints, les vieux, les vrais. Pétersbourg a fortement déteint sur lui, et une fois ici, il s'est adonné au vin et aux femmes, ce qui lui a fait oublier la religion. J'ai su qu'un de nos artistes s'était intéressé à lui et avait commencé à lui donner des leçons. Sur ces entrefaites arrive cette malheureuse affaire. Le pauvre garçon prend peur et se passe une corde au cou. Que voulez-vous? Notre peuple ne peut sauter de l'esprit cette idée que tout homme recherché par la police est un homme condamné. En prison, Mikolka est revenu au mysticisme de ses premières années. À présent, il a soif d'expiation, et c'est ce motif seul qu'il a décidé à s'avouer coupable. Ma conviction à cet égard est basée sur certains faits que lui-même ne connaît pas. Du reste, il finira par me confesser toute la vérité. Vous croyez qu'il soutiendra son rôle jusqu'au bout? Oh, attendez un peu. Vous verrez qu'il rétractera ses aveux. D'ailleurs, s'il a réussi à donner, sur certains points, un caractère de vraisemblance à ses déclarations, en revanche, sur d'autres, il se trouve en complète contradiction avec les faits, et il ne s'en doute pas. Non, Batushka Rodion Romanovitch, le coupable n'est pas Mikolka. Nous sommes ici en présence d'une affaire fantastique et sombre. Ce crime a bien la marque contemporaine. Il porte au plus haut point le cachet d'une époque qui fait consister toute la vie dans la recherche du confort. Le coupable est un théoricien, une victime du livre. Il a déployé, pour son coup d'essai, beaucoup d'audace. Mais cette audace est d'un genre particulier. C'est celle d'un homme qui se précipite du haut d'une montagne ou d'un clocher. Il a oublié de refermer la porte sur lui. Et il a tué, oui, tué deux personnes pour obéir à une théorie. Il a tué et il n'a pas su s'emparer de l'argent. Ce qu'il a pu emporter, il est allé le cacher sous une pierre. Il ne lui a pas suffi des angoisses endurées dans l'antichambre pendant qu'il entendait les coups frappés à la porte et le tintement répété de la sonnette. Non, cédant à un irrésistible besoin de retrouver le même frisson, il est allé plus tard visiter le logement vide et tirer le cordon de la sonnette. Mettons cela sur le compte de la maladie, d'un demi-délire, soit. Mais voici encore un point à noter. Il a tué, et il ne se regarde pas moins comme un homme honorable. Il méprise les gens, il a des allures d'ange pâle. Non, non, il ne s'agit pas ici de Mikolka, cher Rodion Romanovitch. Ce n'est pas lui le coupable. Ce coup droit était d'autant plus inattendu qu'il arrivait après l'espèce d'amende honorable faite par le juge d'instruction. Raskolnikov trembla de tout son corps. Ben, alors qui donc a tué ? Balbutia-t-il d'une voix entrecoupée. Le juge d'instruction se renversa sur le dossier de sa chaise, dans l'étonnement que par lui causait une semblable question. « Comment, qui a tué ? » reprit-il comme s'il eût pu en croire ses oreilles. « Mais c'est vous, Rodion Romanovitch, qui avez tué. C'est vous !» ajouta-t-il presque tout bas et d'un ton profondément convaincu. Raskolnikov se leva par un brusque mouvement, resta debout quelques secondes, puis se rassit sans proférer un seul mot. De légères convulsions agitaient tous les muscles de son visage. « Voilà encore votre lèvre qui tremble comme l'autre jour, » remarqua d'un air d'intérêt Porfir Petrovitch. « Vous n'avez pas bien saisi, je crois, l'objet de ma visite, Rodion Romanovitch, » poursuivit-il après un moment de silence. « De là votre stupéfaction. Je suis venu précisément pour tout dire et mettre la vérité en pleine lumière. »« Mais ce n'est pas moi qui ai tué, » bégaya le jeune homme, se défendant contre le fait comme un petit enfant pris en faute. « Si, c'est vous, Rodion Romanovitch, c'est vous et vous seul, » répliqua sévèrement le juge d'instruction. Tous deux se turent et, chose étrange, ce silence se prolongea durant 10 minutes. Accoudé contre la table, Raskolnikov fourrageait sa chevelure. Porfir Petrovitch attendait, sans donner aucun signe d'impatience. Tout à coup, le jeune homme regarda avec mépris le magistrat. « Oh, vous revenez à vos anciennes pratiques, Porfir Petrovitch. Ce sont toujours les mêmes procédés. Mais comment cela ne vous ennuie-t-il pas à la fin ?»« Ah, laissez donc mes procédés. Ce serait autre chose si nous étions en présence de témoins, mais nous causons ici en tête à tête. Vous le voyez vous-même, je ne suis pas venu pour vous chasser et vous prendre comme un gibier. Que vous avouiez ou non en ce moment, cela m'est égal. Dans un cas comme l'autre, ma conviction est faite. S'il en est ainsi, pourquoi êtes-vous venu ? Demanda avec irritation Raskolnikov. Je vous répète la question que je vous ai déjà faite. Si vous me croyez coupable, que nous lancez-vous un mandat d'arrêt contre moi ? Bon, là, une question, je vous répondrai point par point. D'abord, votre arrestation ne me servirait à rien. Comment elle ne vous servirait à rien? Du moment où vous êtes convaincu, vous devez... qu'importe ma conviction. Jusqu'à présent, elle ne repose que sur des nuages. Et pourquoi vous mettrais-je en repos? Vous le savez vous-même, puisque vous demandez vous-même à y être mis. Je suppose que, confronté avec le bourgeois, vous lui disiez « As-tu bu, oui ou non ? Qui m'a vu avec toi ? Je t'ai simplement pris pour un omnivore, ce que tu étais. » Que pourrais-je répliquer, d'autant plus que votre réponse sera plus vraisemblable que sa déposition qui est de pure psychologie et qu'en outre, dans l'espèce, vous tomberez juste car le drôle est connu pour un ivrogne. Plusieurs fois déjà, je vous ai moi-même avoué, avec franchise, que toute cette psychologie est à deux fins, et qu'en dehors d'elle, je n'ai rien contre vous pour le moment. Sans doute, je vous ferai arrêter. J'étais venu pour vous en donner avis. Et pourtant, je n'hésite pas à vous déclarer que cela ne me servira à rien. Le second objet de ma visite... Eh bien, quel est-il ? Fit Raskolnikov haletant. Je vous l'ai déjà appris. Je tenais à vous expliquer ma conduite, ne voulant point passer à vos yeux pour un monstre. Alors surtout, que je suis des mieux disposés en votre faveur, que vous le croyiez ou non. Vu l'intérêt que je vous porte, je vous engage franchement à aller vous dénoncer. J'étais encore venu pour vous donner ce conseil. C'est de beaucoup le parti le plus avantageux que vous puissiez prendre, et pour vous, et pour moi, qui serait ainsi débarrassé de cette affaire. Eh bien, suis-je assez franc ? Raskolnikov réfléchit une minute. Écoutez, Porfir Petrovitch, d'après vos propres paroles, vous n'avez contre moi que de la psychologie, et cependant, vous aspirez à l'évidence mathématique. Qui vous dit qu'actuellement, vous ne vous trompez pas ? Non, Rodion Romanovitch, je ne me trompe pas. J'ai une preuve. Cette preuve, je l'ai trouvée l'autre jour. Dieu me l'a envoyée. Quelle est-elle ? Ah, je ne vous le dirai pas, Rodion Romanovitch. Mais en tout cas, maintenant, je n'ai plus le droit de temporiser. Je vais vous faire arrêter. Ainsi jugé, quelque résolution que vous preniez, à présent, peu m'importe. Tout ce que je vous en dis, c'est donc uniquement dans votre intérêt. La meilleure solution est celle que je vous indique. Soyez-en sûr, Rodion Romanovitch. Raskolnikov eut un sourire de colère. Votre langage est plus que ridicule. Il est impudent. Voyons, à supposer que je sois coupable, ce que je ne reconnais nullement, pourquoi irais-je me dénoncer? Puisque vous dites vous-même que là, en prison, je serai en repos. Oh, Rodion Romanovitch, ne prenez pas ces mots trop à la lettre. Vous pouvez trouver là le repos, comme vous pouvez ne pas le trouver. Je suis d'avis, sans doute, que la prison calme le coupable, mais ce n'est qu'une théorie, et une théorie qui m'est personnelle. Or, suis-je une autorité pour vous ? Qui sait si, en ce moment même, je ne vous cache pas quelque chose ? Vous ne pouvez exiger que je vous livre tous mes secrets. Quant au profit que vous retirez de cette conduite, il est incontestable. Vous y gagnerez à coup sûr de voir votre peine notablement diminuer. Songez un peu dans quel moment vous viendrez vous dénoncer. Au moment où un autre a assumé le crime sur lui et a jeté le trouble dans l'instruction. Pour ce qui est de moi, je prends devant Dieu l'engagement formel de vous laisser vis-à-vis de la cour d'assises tout le bénéfice de votre initiative. Les juges ignoreront, je vous le promets, toute cette psychologie, tous ces soupçons dirigés contre vous, et votre démarche aura à leurs yeux un caractère absolument spontané. On ne verra dans votre crime que le résultat d'un entraînement fatal, et au fond, ce n'est pas autre chose. Je suis un honnête homme, Rodion Romanovitch, et je tiendrai parole. Raskolnikov baissa la tête et réfléchit longtemps. À la fin, il sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire était doux et mélancolique. « Bon, je n'y tiens pas, » dit-il, sans paraître s'apercevoir que ce langage équivalait presque à un aveu. « Que m'apporte la diminution de peine dont vous me parlez ? J'en ai pas besoin. » « Allons, voilà ce que je craignais !» s'écria comme malgré lui Porphyre. « Je me doutais bien, hélas, que vous dédaigneriez notre indulgence !» Raskolnikov le regarda d'un air grave et triste. « Mais ne faites pas fi de la vie !» continua le juge d'instruction. « Elle est encore longue devant vous. Comment, vous ne voulez pas d'une diminution de peine ? Oh, vous êtes bien difficile !»« Et qu'aurais-je désormais en perspective ?» La vie. Êtes-vous prophète pour savoir ce qu'elle vous réserve? Cherchez et vous trouverez. Dieu vous attendait peut-être là. D'ailleurs, vous ne serez pas condamné à perpétuité. Oui, j'obtiendrai des circonstances atténuantes, fit en riant Raskolnikov. C'est, à votre insu peut-être, une honte bourgeoise qui vous empêche de vous avouer coupable. Il faut vous mettre au-dessus de cela. Oh, je m'en moque, murmura d'un ton méprisant le jeune homme. Il fit encore mine de se lever, puis se rassit en proie à un abattement visible. Vous êtes défiant, oui, et vous pensez que je cherche grossièrement à vous leurrer. Mais avez-vous déjà beaucoup vécu ? Que savez-vous de l'existence ? Vous avez imaginé une théorie et elle aboutit en pratique à des conséquences dont le peu d'originalité maintenant vous fait honte. Vous avez commis un crime, c'est vrai, mais vous n'êtes pas, il s'en faut de beaucoup, un criminel perdu sans retour. Quelle est mon opinion sur votre compte ? Je vous considère comme un de ces hommes qui se laisseraient arracher les entrailles en souriant à leurs bourreaux, pourvu seulement qu'ils aient trouvé une foi ou un dieu. Eh bien, trouvez-les et vous vivrez. D'abord, il y a longtemps que vous avez besoin de changer d'air. Ensuite, la souffrance est une bonne chose. Souffrez. Mikolka a peut-être raison de vouloir souffrir. Je sais que vous êtes un sceptique, mais sans raisonner, abandonnez-vous au courant de la vie. Il vous portera quelque part. Où ? Ne vous en inquiétez pas. Vous aborderez toujours un rivage. Lequel ? Je l'ignore. Je crois seulement que vous avez encore longtemps à vivre. Sans doute à présent, vous vous dites que je joue mon jeu de juge d'instruction, mais peut-être plus tard, vous vous rappellerez mes paroles et vous en ferez votre profit. Voilà pourquoi je vous tiens ce langage. C'est encore bien heureux que vous m'ayez tué qu'une méchante vieille femme. Avec une autre théorie, vous auriez commis une action 100 millions de fois pire. Vous pouvez encore remercier Dieu. Qui sait ? Peut-être a-t-il des desseins sur vous ? Ayez donc du courage et ne reculez point par pusillanimité devant ce qu'exige la justice. Je sais que vous ne me croyez pas, mais avec le temps, vous reprendrez goût à la vie. Aujourd'hui, il vous faut seulement de l'air, de l'air, de l'air. Raskolnikov eut un frisson. « Mais qui êtes-vous ? » s'écria-t-il. Pour me faire ces prophéties, quelle haute sagesse vous permet de deviner mon avenir. Qui je suis? Bon, je suis un homme fini, rien de plus. Un homme sensible et compatissant, à qui l'expérience a peut-être appris quelque chose, mais un homme complètement fini. Vous, c'est une autre affaire. Vous êtes au début de l'existence, et cette aventure, qui sait, ne laissera peut-être aucune trace dans votre vie. Pourquoi tant redouter le changement qui va s'opérer dans votre situation? Est-ce le bien-être qu'un cœur comme le vôtre peut regretter? Vous affligez-vous de vous voir pour longtemps confiné dans l'obscurité? Mais il dépend de vous que cette obscurité ne soit pas éternelle. Devenez un soleil et tout le monde vous apercevra. Pourquoi souriez-vous encore? Ah, vous vous dites que ce sont là des propos de juge d'instruction. Eh bien, impossible. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, Rodion Romanovitch. Je fais mon métier, j'en conviens. Seulement voici ce que j'ajoute. L'événement vous montrera si je suis un fourbe ou un honnête homme. Quand comptez-vous m'arrêter? Oh, je puis encore vous laisser un jour et demi ou deux jours de liberté. Faites vos réflexions, mon ami. Priez Dieu de vous inspirer. Le conseil que je vous donne est le meilleur à suivre, croyez-le bien. Et si je prenais la clé des champs? Demanda Raskolnikov avec un sourire étrange. Oh, vous ne la prendrez pas. Un moujik s'enfuira. Un révolutionnaire du jour, valet de la pensée d'autrui, s'enfuira parce qu'il a un credo aveuglément accepté pour toute la vie. Mais vous, vous ne croyez plus à votre théorie. Qu'emporteriez-vous donc en vous en allant? Et d'ailleurs, quelle existence ignoble et pénible que celle d'un fugitif. Si vous prenez la fuite, vous reviendrez de vous-même. Vous ne pouvez vous passer de nous. Quand je vous aurai fait arrêter, au bout d'un mois ou deux, mettons trois si vous voulez, vous vous rappellerez mes paroles et vous avouerez. Vous y serez amené insensiblement, presque à votre insu. Je suis même persuadé qu'après avoir bien réfléchi, vous vous déciderez à accepter l'expiation. En ce moment, vous ne le croyez pas, mais vous verrez. C'est qu'en effet, Rodion Romanovitch, la souffrance est une grande chose. Dans la bouche d'un gros homme qui ne se prive de rien, ce langage peut prêter à rire. N'importe, il y a une idée dans la souffrance. Mikolka a raison. Non, 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 vous ne prendrez pas la fuite, Rodion Romanovitch. Raskolnikov se leva et prit sa casquette. Porfir Petrovitch en fit autant. Vous allez vous promener? La soirée sera belle, pourvu cependant qu'il n'y ait pas d'orage. Du reste, ce serait tant mieux, cela rafraîchirait la température. Porfir Petrovitch, dit le jeune homme d'un ton sec et pressant. N'allez pas vous figurer, je vous prie, que je vous ai fait des aveux aujourd'hui. Vous êtes un homme étrange, je vous ai écouté par pure curiosité. Mais je n'ai rien avoué, hein, n'oubliez pas cela. Oh, suffit, je n'oublierai pas. Et comme il tremble, mais ne vous inquiétez pas, mon cher. Je prends bonne note de votre recommandation. Promenez-vous un peu, seulement ne dépassez pas certaines limites. À tout hasard, j'ai encore une petite demande à vous faire, ajouta-t-il en baissant la voix. Elle est un peu délicate, mais elle a son importance. Au cas, oh, d'ailleurs improbable, selon moi, où durant ces 48 heures, la fantaisie Vous viendrez d'en finir avec la vie. Pardonnez-moi cette absurde supposition. Eh bien, laissez un petit billet, rien que deux lignes, et indiquez l'endroit où se trouve la pierre. Ce sera plus noble. Allons, au revoir. Que Dieu vous envoie de bonnes pensées. Porphyre se retira en évitant de regarder Raskolnikov. Celui-ci s'approcha de la fenêtre et attendit avec impatience le moment où, selon son calcul, le juge d'instruction serait déjà assez loin de la maison. Ensuite, il sortit lui-même en toute hâte.